Bonsoir à tous, merci d'être ici à la salle polyvalente de Vincennes pour notre conférence. Merci d'être venus aussi nombreux. Nous allons donc vous présenter cette conférence qui se tourne dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et qui s'appelle « Deux voix, une lutte, femme autiste face aux violences ». Nous allons tout d'abord nous présenter. Moi, je suis Peggy Lou Garbal, autiste Asperger, ou autiste, comment est-ce qu'on peut dire, de haut niveau, autiste...
Oui, de niveau 1 aussi.
Voilà, je que parfois le terme Asperger est un peu décrié. 52 ans, diagnostiqué officiellement à 47 ans. Voilà, je suis écrivaine, je suis conférencière. Jumelle donc avec Marlène ici présente et engagée pour sensibiliser à l'autisme, notamment avec notre association qui s'appelle Nos âmes d'autistes.
Alors bonjour, moi je m'appelle Marlène, je suis professeure et interface de communication en langue des signes française. J'ai été diagnostiquée aussi officiellement à l'âge de 47 ans. Les engagements sont les mêmes que pour ma sœur. Hein. Nous avons donc créé une association concernant l'autisme et le fait de regrouper les personnes autistes de niveau 1 ensemble autour de l'art ou de projets divers et variés. Alors, nous allons faire un bref rappel des caractéristiques de l'autisme sans déficience intellectuelle, donc ce qu'on appelait autrefois l'autisme Asperger, qui est aussi appelé l'autisme de haut niveau et l'autisme de niveau 1. Donc les caractéristiques sont les mêmes que pour l'autisme en général, sauf que la particularité de l'autisme de niveau 1 est qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle.
Donc il y a différentes formes d'autisme. Il y en a notamment trois, ce qu'on appelle l'autisme de Kanner, qui sont des personnes autistes, non autonomes. L'autisme atypique, qui se trouve, si on regarde ça via un spectre de l'autisme, qui se trouve un peu entre les deux, et effectivement l'autisme dit de haut niveau ou de niveau 1. Donc avec une forme d'autisme qui est plutôt autiste autonome. Et puis après, il y a aussi, dans le spectre de l'autisme, il y a le syndrome désintégratif de l'enfance, qui est aussi une spécificité et qui entre aussi dans le cadre de l'autisme, mais qui est une forme beaucoup plus rare.
Alors pour présenter rapidement les objectifs de cette conférence, nous avons décidé de créer cette conférence pour partager nos expériences, pour déconstruire les idées reçues qui sont assez nombreuses concernant l'autisme de haut niveau, et puis aussi pour ouvrir au dialogue, pour pouvoir faire comprendre de quoi il s'agit exactement.
Alors, je le disais en préambule, cette conférence est faite dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre. Alors, il y a une problématique, les violences faites aux femmes, mais il y a également une surreprésentation des femmes autistes parmi les victimes de violences. Donc, on va voir un petit peu tout à l'heure, on développera un petit peu plus... Pourquoi, comment, je crois qu'au niveau des chiffres...
Sur l'autisme, c'est 9 femmes sur 10, c'est-à-dire 88% de femmes autistes qui ont été victimes de violences sexuelles. Alors on parle de violences sexuelles parce qu'il est difficile d'établir un chiffre sur les violences en général, mais on sait que c'est 3 fois plus que la moyenne.
Alors, il y a différentes causes à ça. Hein. Les femmes autistes sont plus vulnérables parce qu'elles ont notamment des difficultés de communication, souvent d'interprétation sociale. Le fait de ne pas arriver à se conformer à la société. Ça peut être ne pas comprendre parfois certaines choses, ne pas comprendre les codes sociaux, l'habillement, les choses comme ça, des difficultés de communication. Et puis il y a aussi le fait de parfois avoir certaines vulnérabilités, d'être en période de surcharge, par exemple sensorielle, d'avoir des crises, de l'agressivité, ce qui évidemment n'amène pas à une communication très, très claire avec les autres personnes.
Il y a aussi le fait que les personnes autistes ont beaucoup de mal à demander de l'aide. C'est ce qu'on appelle un état de figement. Alors déjà parce que, dans un premier temps, comme ça a été dit, parce que les personnes autistes n'arrivent pas vraiment à comprendre les codes sociaux et pourraient ne pas comprendre clairement les intentions de quelqu'un, mais aussi parce qu'elles, c'est comme une sorte de sidération. Finalement, voilà, quand il y a des choses graves qui se passent, c'est un petit peu une sorte de sidération. Et il y a aussi, je pense, une sorte de mésestime qui est importante et qui fait dire que peut-être que c'est mérité.
Oui, il y a différentes formes de violence. Alors, effectivement, il y a aussi le fait qu'une personne autiste qui ne comprend pas les codes sociaux va aussi facilement faire confiance et croire... tout ce qu'on lui dit, et qu'effectivement ce manque de code social peut amener effectivement à ne pas comprendre exactement les intentions de la personne. Donc il y a quand même différentes formes de violence, hein. La violence sexuelle, hein, tu en parlais, il y a aussi la violence institutionnelle, il y a la violence sociale, familiale, intrafamiliale notamment. Et puis aussi la violence scolaire, donc différentes formes de violence.
Il y a aussi, oui, la violence économique. Alors souvent, les personnes autistes ont du mal avec l'organisation, avec la planification, avec ce type de choses. Et souvent, quand elles sont en couple, la personne, le conjoint ou la conjointe prend le pas et s'occupe des affaires financières. Et comme la personne est coupée de toute information à ce niveau-là, ça crée un blocage assez important pour pouvoir partir, pour pouvoir avoir une liberté économique.
Ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes handicapées, parce que quand on est en couple, alors maintenant ça a changé au niveau de l'allocation adulte handicapé, puisque c'est décalculé par rapport au prorata de ce que touchait le couple. Donc si le conjoint touche suffisamment d'argent, on va dire, la personne qui a un handicap ne touchera pas son allocation. Et ça crée aussi une dépendance. Alors maintenant, ça a changé depuis quelques mois, mais je crois que c'est encore fait au prorata et qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir là-dedans, parce que quand on enlève de l'autonomie, et notamment de l'autonomie financière, c'est de la porte ouverte à beaucoup d'abus.
Pour parler des expériences, nous, on va parler de nos expériences personnelles, puisque, évidemment, nous n'allons pas parler au nom de toutes les personnes autistes, hein. C'est vraiment nous, ce qui nous est arrivé, notre manière de fonctionner, en sachant que ça rejoint quand même beaucoup, évidemment, puisque nous sommes autistes, ça rejoint beaucoup de caractéristiques d'autres personnes. Alors moi, pour parler de mes expériences en général, puisque là, le but, ce n'est pas de faire un cas par cas sur les expériences, c'est vrai qu'au niveau déjà familial, les violences peuvent commencer dans un cadre familial. Alors ce ne sont pas forcément des violences physiques, hein, mais c'est beaucoup de violences morales, du fait d'être un petit peu différente, de ne pas s'exprimer vraiment, d'avoir des particularités. À l'école, c'est vrai que dès la maternelle, pour nous, c'était très compliqué. Et en plus du fait de notre gémellité qui n'a pas forcément arrangé les choses, c'est vrai que beaucoup d'élèves nous agressaient, nous harcelaient. des professeurs aussi, hein, des professeurs qui ne comprenaient pas un petit peu cette manière d'être un peu en retrait, de ne pas communiquer, de communiquer entre nous finalement et pas avec les autres, c'était mal perçu. Je crois que vraiment le gros problème, c'était surtout la communication déjà, de base.
D'autant plus, alors excuse-moi, je t'interromps, qu'en tant que jumelle, on était et en tant qu'autiste, mais on n'était pas diagnostiqué à l'époque, on était dans notre bulle, dans une autre bulle. Donc c'est vrai que les personnes liaient plus souvent ça au fait qu'on était jumelles et qu'on n'avait pas envie de communiquer avec les autres.
Oui. Et puis, le collège, je crois, moi, pour ma part, le collège a été le pire. Bon, toujours des agressions physiques, hein, des agressions verbales, du harcèlement, des moqueries. Donc, je fais un rapide. Et puis, bon, dans ma vie d'adulte, j'ai souvent eu tendance à me diriger vers les mauvaises personnes, hein, notamment dans le cadre affectif. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la facilité à me manipuler d'une certaine manière. Alors le fait de dire que je, pour ma part, hein, que je ne pas comprendre forcément les intentions des autres, alors oui et non, certainement, mais souvent je les ai comprises, mais je n'ai pas su mettre un frein à tout ça, puisque j'estimais que finalement c'est entre guillemets ce que je méritais. Voilà, que...
Oui, c'est pas pour toi. oui, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de personnes autistes, hein, mais encore une fois, nous ne parlons pas au nom de tout le monde, il y a une partie qu'on ne comprend pas, effectivement, mais il y a aussi une grosse partie où on arrive à détecter les intentions des personnes, mais les mauvaises intentions, hein, bien sûr, mais on ne sait pas comment les freiner. On a du mal à mettre une limite parce qu'on ne sait pas où est la limite, ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a eu beaucoup de situations, en tout cas en ce qui me concerne, de malaise, parce que à un moment je me dis c'est pas normal, mais comment le dire, puisque la personne en face va dire si c'est normal, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que ça l'a été dès l'enfance, parce que les enfants sont cruels entre eux, mais pas que, parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y avait des professeurs et c'était pas les moins virulents. Et puis, les violences qui commencent, alors physiques, sexuelles, mais aussi psychologiques, qui commencent très très tôt et dans beaucoup de cadres. À l'école, on a subi du harcèlement, d'autant plus qu'on n'était quand même pas... on n'a pas un physique de personne costaude, donc on ne pouvait pas trop se défendre non plus physiquement. Et puis après, ça se répercute parce que, c'est triste à dire, on est tellement habitué à la violence qu'on considère qu'elle est normale. Et donc forcément, on va dans des situations où on va se placer avec des personnes qui vont nous faire subir des violences, parce qu'effectivement, on est très manipulable. Moi, en tout cas, j'ai tendance à croire tout ce qu'on me dit. Avec le recul et l'âge, j'essaye de faire attention aussi, mais même avec l'expérience, on a cette facilité, je trouve, à se faire manipuler. Et c'est difficile de sortir de là, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Les femmes autistes ont beaucoup de difficultés à demander de l'aide, parce qu'on ne sait pas comment faire. Il y a les difficultés de discernement. Est-ce que cette situation est normale ou pas ? Est-ce qu'on exagère ? Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Quand on est autiste, on nous dit, quand on essaye d'exprimer quelque chose, surtout quand le handicap est invisible, on a toujours l'impression d'exagérer. Ce qui souvent est aussi le cas des femmes en général, quand les femmes expriment quelque chose, une douleur, etc., ou même quand elles vont dire qu'elles se sont fait agresser, souvent c'est minimisé, et d'autant plus avec les femmes autistes. Et donc, y a les difficultés à s'exprimer aussi, et puis il y a la honte, et puis la peur d'être jugée.
Oui, il y a aussi le fait, oui, par rapport au fait de, bah, d'aller déposer une plainte, d'aller déposer une main courante, il y a aussi le fait de ne pas savoir narrer une histoire, de ne pas savoir mettre en place les différents événements qui ont eu lieu. Donc ça peut paraître confus souvent, surtout ben, quand on communique sous le coup de l'émotion, il y a une surcharge qui se fait rapidement, donc il y a déjà une difficulté à gérer les émotions, et c'est vrai que quand on essaie de, en général de raconter quelque chose, c'est vrai qu'il y a souvent ben, de la confusion et que les personnes en face ne prennent malheureusement pas toujours au sérieux ce qui est raconté. Il y a peut-être aussi le fait d'utiliser des termes qui ne sont pas forcément adaptés à la situation. Voilà, de se tromper un petit peu dans les termes ou ce genre de choses.
Et même dans le milieu médical, on a du mal à dire parfois où on a mal. C'est compliqué. Enfin, moi, je ne sais pas si ça te fait aussi, mais parfois, je peux ne pas avoir mal alors que j'ai quelque chose, ou je ne sais pas situer la douleur. Je sais que j'ai mal, je ne sais pas où elle est. Et c'est très compliqué. Pendant des années, je n'ai pas été voir un médecin ou aller à l'hôpital quand j'avais quelque chose, parce qu'à chaque fois, peut-être de plus en plus maintenant, mais il y a quand même encore peu de monde qui est formé à ça. Donc c'est vrai que quand on arrive, alors déjà, il y a les difficultés d'explication sur pourquoi ce qu'on ressent. Mais souvent, il y a de l'agacement. Après, le milieu hospitalier, ils sont quand même aussi en tension, etc. Donc, il faut parfois aller vite. Et puis, bah, plus on va sentir que la personne s'agace, plus on va stresser, et moins on va arriver à s'exprimer. Et c'est vrai que moi, il y a des fois où... je me suis fait clairement engueuler parce que on me dit mais comment ça se fait, vous savez pas où vous avez mal, arrêtez de nous faire perdre notre temps, alors que j'avais vraiment mal. Et il y a quand même un manque de formation et d'écoute parfois, hein, que ce soit ben, comme dans les commissariats, dans les hôpitaux. Alors il s'agit pas de dire hein, que tout le monde ne comprend pas ce qui est dit. Hein. Il y a des gens qui sont formés, il y a des gens qui ont de l'empathie, mais parfois la situation fait qu'il y a une incompréhension mutuelle et que c'est compliqué. Et du coup, ça bloque encore plus parce que une femme autiste ne va pas, comme on disait, oser demander de l'aide parce qu'elle sait déjà que ça va être compliqué d'expliquer. Et que peut-être qu'il y aura des retours négatifs, agressifs ou d'incompréhension. Et ça bloque beaucoup, je pense. Parce que là, tu disais qu'il y a 88% des femmes autistes qui subissaient des violences sexuelles, alors que 88%, c'est une estimation. Il y en a sans doute beaucoup plus, mais elles ne l'ont pas exprimé. Alors, il y a les violences institutionnelles, il y a les violences, ben, comme tu disais, quand on va dans un commissariat ou même dans un hôpital. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'accueil est mal fait dans les commissariats ou dans les hôpitaux, mais il arrive qu'il y ait des personnes non formées, ce sont des personnes qui peuvent être aussi en tension, et il y a des difficultés à se faire comprendre. Et parfois, bah, quand on a du mal à expliquer, et bah, ça crée de la confusion. Et les femmes autistes, souvent, n'osent plus aller demander de l'aide parce qu'elles savent que ça va être compliqué, qu'il va falloir expliquer, être compris, etc. Donc ça devient très, très compliqué et donc on n'y va pas. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait 88% des femmes autistes qui ont subi des violences sexuelles. Je pense qu'il doit y en avoir plus, mais forcément ce sont des personnes qui n'ont pas parlé, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de femmes, hein, autistes ou non. Je pense que ces chiffres-là sont toujours sous-estimés.
Oui, on parlait de la violence dans les institutions médicales. Donc je te rejoins pour dire que bien évidemment, il y a heureusement des personnes qui considèrent l'autisme. Mais moi, par exemple, j'ai un parcours médical, donc pour une endométriose. Et c'est vrai que ça a été... Alors, je pense pour toutes les personnes, hein, y compris les femmes, surtout les femmes qui ne sont pas autistes, mais c'est vrai que ça a été difficile... d'expliquer effectivement où j'avais mal, de quoi il s'agissait, mais bon, après ce n'est pas moi le médecin de toute façon. Et quand on parle aussi de violence, il y a cette manière de quand on arrive chez un gynécologue ou une gynécologue, on comprend bien que bon, ils n'ont pas le temps de peut-être de faire du cas par cas, mais c'est vrai que c'est assez intime comme entretien. Finalement, ça peut être gênant, et pour moi c'est très difficile ces entretiens en général. Et il n'y a pas de considération du fait de se faire ausculter, il n'y a pas qu'on nous prévienne juste de dire voilà, on va démarrer, ce respect finalement du corps que chaque femme devrait avoir de toute façon. Et c'est vrai que c'est moi, ça me, on va pas dire que ça me mettait en sidération, mais presque. Et finalement, comme ça me mettait dans une tension, finalement quand on me posait des questions derrière, je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas où j'avais mal, je ne savais pas comment m'exprimer. Voilà, moi, ça me met en sidération. Et finalement, quand je ressortais, mon problème n'était pas forcément compris, surtout, et puis réglé.
Oui, donc moi, j'ai aussi une endométriose, mais qui a été diagnostiquée très récemment, il y a quelques semaines. Et pourtant, ça fait des années que j'ai mal. Et c'est vrai que j'ai eu un parcours en fait où on me croit pas. Je dis j'ai mal au ventre quelque part par là, mais vraiment mal à me plier en deux. On m'a fait des tests à l'estomac, on m'a fait des radios, etc. Et puis forcément il y avait rien puisque c'était pas à l'estomac que ça se passait. Et donc moi j'avais un médecin qui m'avait dit ça doit être un syndrome de l'intestin irritable, et puis mon médecin me dit non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, le syndrome de l'intestin irritable. Mais je lui dis, mais en tout cas, la maladie qui n'existait pas me fait souffrir. Et là, c'est tout à fait par hasard qu'on a découvert que j'avais une grosse endométriose, et j'ai été soulagée. C'est à la grande stupéfaction de la gynécologue, parce que je dis, mais enfin, je suis crue, entendue, écoutée. Donc c'est très compliqué de se faire entendre dans le milieu médical quand on n'a pas tous les mots pour dire. Et ça surprend les gens, parce que quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, les gens considèrent qu'on a tous les mots qu'il faut. Alors bon, moi en plus je suis écrivain, donc j'ai des mots, mais c'est pas pour ça que dans ma vie je sais les utiliser à bon escient ou voilà. Donc c'est compliqué à faire comprendre.
Oui. Voilà, moi j'ai les mêmes problèmes. On parlait de l'autisme. Là, on parle de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et c'est vrai que ce type d'autisme, en général, n'est pas pris au sérieux. Puisque s'il n'y a pas de déficience intellectuelle, on pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour être de toute façon diagnostiqué autiste, il y a des points très particuliers et qui sont de toute façon des problèmes. Quand on a des difficultés de communication, d'interaction sociale, on va forcément avoir des problèmes dans la société. Et ça reste un handicap invisible, et c'est bien là aussi qu'est le souci, puisque qui dit handicap invisible dit qu'on ne le voit pas et que ça n'existe pas. Donc c'est vrai, quand on essaye d'appuyer, de dire voilà, on a telle difficulté, on ne comprend pas ça, on ne comprend des fois pas pas des sens, si on nous parle par exemple avec des phrases toutes faites, un sens littéral, il peut y avoir vraiment une confusion et ça peut en plus plonger un petit peu dans l'incompréhension. Et là, on en revient au fait de ne pas oser dire qu'on n'a pas compris ou de demander de l'aide. Je crois vraiment que mon plus gros problème, c'est la gestion de mes émotions. C'est beaucoup trop... Alors j'essaye de gérer, c'est toujours pareil, avec l'âge on apprend certaines choses, on essaye, mais c'est vrai que c'est difficile quand il y a une émotion de ne pas la faire exploser. Voilà, et c'est compliqué dans la société quand on s'énerve, ou pas forcément de l'énervement, mais ça peut être des pleurs, ça peut être... C'est ce qu'on appelle l'effondrement.
Inapproprié ou
exagéré.
Oui, que les gens trouvent exagéré. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se mettre à pleurer pour un détail. En fait, ce qui est paradoxal dans le handicap invisible, et notamment sur l'autisme, c'est qu'on passe notre temps à compenser et à masquer. C'est vrai que c'était un peu plus visible, je pense... des années en arrière, le fait qu'on soit autiste, on n'était pas considéré comme autiste, on nous considérait comme folle ou déficiente intellectuelle tout simplement, parce que j'avais moi par exemple des stéréotypies, je faisais le petit oiseau, enfin souvent ce sont les balancements, moi je faisais comme ça quand j'étais très stressée, ce qui me rendait pas très populaire à l'école, il faut bien le dire. Et on apprend à masquer, et parce que la société veut qu'on s'adapte, et une fois qu'on essaie de s'adapter, ça soit plus, mais le décalage est toujours là, et ça nous rend vraiment très vulnérables aux violences, quoi.
C'est de la fatigue constante, et on n'a plus envie d'y réfléchir, on n'a plus envie de... De toute façon, toutes les actions sont quand même assez fatigantes, puisqu'on est un petit peu soit hypersensible, soit hyposensible, mais en général,
soit les deux.
Voilà, et puis tout ce qu'il y a autour, des choses banales, ça peut être du bruit, de la lumière, l'extérieur, les interactions, c'est fatigant, et c'est vrai qu'on est en fatigue chronique tout le temps, donc c'est de la fatigue, et quand il y a des choses à faire finalement, ou peut-être un combat à mener, je pense qu'on a peut-être plus tendance à laisser tomber, parce qu'on se dit que ça va être énergivore, qu'on ne va pas forcément arriver au bout, et puis que de toute façon, moi je le sens souvent comme ça, je me dis... les gens doivent me trouver bizarre dans certaines situations. Je ne suis pas bien, et je me dis que les gens... peut-être je fais un peu de paranoïa aussi, je ne sais pas, mais je me dis que voilà, là, on me regarde bizarrement parce que je suis bizarre, parce que des fois, je n'arrive pas à me calmer, je bouge beaucoup, c'est un petit peu... Alors, moi, je ne fais pas vraiment le petit oiseau, mais ça se manifeste par des claquements de doigts ou des mouvements un peu plus peut-être discrets que... Mais je bouge beaucoup, je n'arrive pas... des fois à tenir sur ma chaise, que c'est l'angoisse, c'est de l'angoisse qui monte. Et quand on est un petit peu différent comme ça, et qu'en plus on n'a pas un diagnostic, eh bien on est vulnérable, encore plus vulnérable au harcèlement, puisque c'est l'ignorance finalement qui fait que les personnes ont plus de facilité à se moquer. Donc rien bien sûr ne justifie le harcèlement, même pour... pour une personne qui rentre dans les cases, entre guillemets. Mais je pense que la vulnérabilité, elle vient aussi de là, et le fait de ne pas se sentir à sa place est légitime. Et le diagnostic, moi, pour ma part, il m'a permis de me sentir légitime, même si on a toujours du mal à sortir notre carte prioritaire, que ce soit dans les files d'attente.
Et je trouve que ça, c'est une violence institutionnelle, c'est ce problème de la carte coupe-file, enfin ce qu'on appelle une carte coupe-file, c'est-à-dire une carte priorité. C'est difficile en fait de sortir une carte de priorité quand physiquement on n'a rien de visible. Alors après, on n'est pas tenu d'expliquer aux gens, c'est assez compliqué d'expliquer pourquoi on a besoin d'une carte priorité quand on est autiste, etc. Et c'est une violence incroyable. Et c'est le cas de beaucoup de personnes autistes qui ne sortent plus leurs cartes, eh ben parce que même dans les caisses, moi, une fois, je me suis fait insulter à SOS Médecins, qui m'a dit « Ah, mais vous voulez des privilèges ?» Non, ce n'est pas un privilège d'avoir une carte coupe-fil, parce qu'on ne l'a pas comme ça. Hein. Il faut quand même monter des dossiers, etc. C'est très compliqué. Et voilà, même aux caisses, il y a une espèce de haine des gens quand on montre une carte et puis pour passer devant, les gens regardent de haut en bas, les gens râlent comme si c'était vraiment, je suis ravie d'être handicapée rien que pour doubler les gens aux caisses, quoi. C'est d'une violence voilà, qui peut paraître pas si grave que ça, mais en fait au quotidien, c'est très pénible, quoi.
En fait, c'est de la violence qui use. Mmh. Et puis, il faut savoir que les personnes autistes, alors aujourd'hui, bon, on parle des femmes, mais bien évidemment, ça concerne aussi les hommes, ont une espérance de vie plus limitée. Alors la plus grande raison est le suicide. Parce que le fait d'être toujours, quand on parle de l'autisme, on parle d'une bulle. Et effectivement, je pense que les autistes sont souvent dans leur bulle et que c'est difficile d'en sortir quand même. Et c'est bien aussi, c'est un refuge par moment, mais voilà, c'est fatigant, c'est usant.
Oui, c'est ça, c'est bien dit. C'est usant, et effectivement, il y a une étude suédoise qui indiquait que l'âge moyen de vie d'un autiste, c'est 54 ans, ce qui est quand même très jeune. Donc avec le suicide en tête, bon, les accidents domestiques en deuxième, et le suicide, c'est aussi une conséquence de la violence que les autistes subissent au quotidien. Donc ces petites violences qui usent, le fait de ne pas pouvoir sortir une carte handicapée, le fait d'être jugé parce qu'on n'a pas un comportement adéquat, et puis bien sûr toutes les violences beaucoup plus graves. Moi je dis toujours, quand on est femme et autiste, on est doublement vulnérable aux agressions, aux violences. Voilà, et en plus les personnes autistes donc ont du mal à communiquer, mais souvent ne parlent pas, donc quand on parle pas, bah, forcément comment dénoncer quand on n'a déjà pas la capacité de parler ou de s'exprimer.
Oui, mais en fait on n'a pas l'habitude, on ne sait déjà pas prendre soin de nous en règle générale. C'est vrai que moi par exemple j'ai des enfants, mais si je suis laissée seule, les heures de repas, je ne sais pas, je perds vraiment toute notion des choses. Voilà, je n'arrive pas vraiment à m'ancrer dans une vie sociale normale, entre guillemets. Voilà, et ça aussi, bon. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la violence ? Oui, parce que finalement, après, quand on a un décalage, voilà, comme ça, on n'est jamais. C'est l'intégration qui est compliquée.
Oui, puis ça permet aux personnes de manipuler aussi. C'est vrai que quand on n'a pas de cohérence comme ça, moi, c'est pareil. Quand je vivais toute seule, les heures de repas, enfin, j'étais totalement en décalage, et donc il y a des gens qui apportent des structures en disant, ben voilà, c'est comme ça que ça doit être, et qui sécurise. Et donc, on n'est pas sous emprise, hein, parce qu'évidemment, les gens peuvent avoir des structures sans être violents, mais ça, en fait, c'est une forme de violence, alors pas d'avoir de la structure, mais que nous-mêmes... je ne sais pas comment expliquer, on se laisse aussi structurer par ces choses-là, parce que tu disais tout à l'heure, quand je subissais des violences, je me disais que je l'avais mérité. En fait, la société, dès le départ, quand on est handicapé, elle ne nous valorise pas. Le handicap n'est pas du tout valorisé. Et donc, dès l'enfance, on a l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. on réagit pas normalement, on fait pas ce qu'il faut, on n'arrive pas à faire certaines choses très simples. On est toujours dans une forme de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilisation de la personne handicapée parce qu'elle rentre pas dans les cases. Et on grandit avec cette idée-là que, de toute manière, on l'a mérité. Ou alors, on va vers des personnes, peut-être, qui vont être très, très dominantes parce qu'on se dit, inconsciemment, elles vont nous faire rentrer dans le cadre. Elles vont nous aider à rentrer dans le cadre.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, on parle là de... Donc la violence n'est pas que l'apanage des conjoints. Hein. Il y a aussi... ça peut être de la famille. On en a un petit peu... départ.
Voilà, les plus grandes violences, de toute manière, enfin les plus nombreuses sont dans le milieu intrafamilial.
Oui, ça peut être des amis aussi, mais... C'est vrai que déjà dans un diagnostic, il y a aussi le déni de l'entourage, et ça aussi c'est une violence de ne pas prendre en considération les difficultés de quelqu'un, quoi qu'il en soit, c'est une violence, voilà, de devoir. Alors il faut des adaptations, évidemment, hein, la société ne doit pas forcément s'adapter toujours au handicap, mais il faut un petit peu, il faut un petit peu d'adaptation, de l'information, et puis prendre en compte que tout le monde n'a pas la notion de demander de l'aide. Voilà, c'est pas le mot que je voulais dire, notion, mais comme quoi,
on n'est pas. Oui, non, mais c'est mais très bon, compris,
je pense que l'idée est comprise. On n'a pas toujours le réflexe ou l'impulsion de demander de l'aide. Voilà, et c'est cette bulle en fait qu'il y a autour de la personne autiste qui empêche aussi les autres de passer et de savoir ce qu'il se passe vraiment.
Oui, et c'est pour ça que la sensibilisation, c'est important, parce qu'on dit tout le temps, pour lutter contre la violence, il faut parler, il faut s'exprimer, mais c'est pas facile. C'est pas facile quand on est autiste, et c'est pas facile tout court. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment sensibiliser les personnes pour qu'elles arrivent à s'exprimer, parce que dire à quelqu'un il faut parler, il faut dénoncer, oui, mais comment faire? C'est pas évident non plus, et notamment sur les violences faites aux femmes, on voit hein, globalement comment ça se passe quand des femmes dénoncent des violences. C'est souvent minimisé. Alors je donnerai pas de nom, mais il y a un humoriste poursuite sans suite, je sais plus comment on appelle ça, pour un cas d'agression sexuelle, alors qu'il y a quand même un dossier médical derrière tout ça, voilà. Et donc ça a été classé sans suite, ce qui ne veut pas dire relaxé, ce qui ne veut pas dire non plus forcément qu'une personne est coupable non plus, mais bon. Et qui quand même, qui minimise ces faits-là, et qui a l'audace de dire je pardonne sa victime, je lui pardonne parce que elle a menti, etc. Il y a toujours une minimisation en fait des violences faites aux femmes, et c'est très compliqué d'aller porter plainte, parce que c'est une double peine, notamment pour des agressions sexuelles, parce qu'une femme va être jugée. Si elle s'est fait agresser sexuellement, c'est parce qu'elle était habillée de manière à se faire agresser sexuellement. On ne va pas dans le fait que normalement on n'agresse pas les gens quel que soit leur habillement, c'est que quelque part c'est de leur faute, elles ont incité ça, voilà.
Oui, c'est voilà, pour faire un... Bon, je pense qu'on a abordé quand même un petit peu les points importants de ces violences.
Oui, on n'a pas parlé de la violence institutionnelle aussi.
Oui.
Le fait d'aller faire des papiers, des choses comme ça. Par exemple, pour les femmes autistes, quand on doit aller faire des démarches. J'ai des femmes autistes, mais après, il y en a qui ont du mal à faire certaines démarches. J'ai besoin d'un être humain en face de moi, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément comprendre. L'autre jour, je voulais me faire attribuer un Sirette secondaire, ce qui était assez compliqué parce que je suis dans une situation particulière. Comme je suis artiste-auteur, mais j'ai un Sirette secondaire en tant que prestataire de service, mais normalement, on ne peut pas avoir deux Sirettes. Enfin bref, je me suis retrouvée confrontée à l'informatique et à des personnes qui ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Quand j'essayais d'appeler et qu'on dit bah non, maintenant on ne fait plus de présentiel. Et il y a toutes ces choses-là, ou même quand je dis violence institutionnelle, il y a le non-accès au monde de l'emploi, mais même à la scolarité aussi, parce que les personnes handicapées ont un accès à la scolarité, mais même s'il y a quand même des avancées, il y a quand même encore beaucoup de travail. Quand on voit comment ça se passe, quand des personnes ont des AESH, qui sont pleins de bonne volonté, etc., et puis qu'on retire brusquement ces personnes, alors que les enfants se sont attachés. C'est compliqué pour une personne autiste d'avoir l'habitude de quelqu'un, et puis qu'on les enlève du jour au lendemain, qu'il y a 2 heures par-ci, 3 heures par-là, et puis qu'au final... Je trouve que c'est assez hypocrite, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est pour dire on fait de l'inclusion, mais finalement, il n'y a pas vraiment de suivi ou même de volonté de faire en sorte que ces enfants puissent, après l'école, s'intégrer. Même si, quand même, il faut reconnaître... le travail des associations aussi. Alors le travail merveilleux des AESH aussi, hein, qui font beaucoup et qui essayent de faire avec ce qu'on leur donne comme moyens humains et financiers. Donc il y a toutes ces violences-là aussi qui amènent à une forme de vulnérabilité.
Donc c'est vrai que j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette violence à l'égard des femmes autistes et à l'égard d'un autre être humain, de toute façon, en général, puisse disparaître. Donc, à mon sens, alors je dis souvent ça à chaque fois qu'on me pose la question, hein, peu importe le sujet, c'est qu'il faut à tout prix de l'information et de la sensibilisation. Parce que c'est vrai que quand on va déposer une plainte, c'est compliqué, ce n'est pas toujours pris au sérieux, il n'y a pas d'accueil spécial pour les femmes autistes. J'ai cherché, alors peut-être que je me trompe, hein, mais un numéro d'urgence donc d'appel pour les femmes autistes, et je n'en ai pas trouvé. Alors bon, c'est la violence, ça reste de la violence, hein. Heureusement qu'il existe des numéros d'urgence pour les femmes violentées, mais c'est vrai que j'ai trouvé un numéro de téléphone qu'on donnera, si ça intéresse quelqu'un, qui concerne les femmes handicapées. Alors pourquoi faire cette distinction ? Tout simplement dans l'approche du dialogue qui va s'en suivre. Alors, je ne sais pas si je suis bien claire, mais justement je pense que de connaître les spécificités des femmes autistes qui souvent camouflent, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi intéressant pour bien comprendre de quoi il s'agit et de bien prendre en considération la demande. Voilà.
Oui, c'est la AFD-FA. Donc là, je donnerai le numéro de téléphone pour les personnes qui sont intéressées. Nous allons continuer l'entretien par la suite. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment que les femmes autistes sont très vulnérables. Parce que y a de la difficulté à dire, à communiquer, et puis aussi parce qu'elles sont en position de faiblesse dès l'enfance, puisqu'on je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais c'est souvent le cas, c'est elles estiment qu'elles le méritent aussi quand elles sont violentées, parce que on peut leur faire croire que qu'elles n'agissent pas normalement, etc., avec la culpabilisation. Voilà, on sait ce que c'est après le phénomène aussi d'emprise, etc. Donc il y a cette vulnérabilité-là, et ce qu'il faudrait faire, bien sûr, c'est écouter, mais écouter, se former à l'écoute pour les personnes autistes, puisque forcément la communication et le dialogue, comme tu le disais, n'est pas, n'est pas le même. Et puis, y a aussi cette spécificité de parfois, surtout sous le coup de l'émotion, de sortir des mots hors contexte, je ne sais pas si tu vois, ou d'avoir le mauvais mot ou la mauvaise image quand on explique quelque chose. Et donc, forcément, quelqu'un qui ne sera pas formé à l'autisme ne va peut-être pas comprendre parfois aussi des signaux d'alerte ou ne pas comprendre ce qui est gênant dans le témoignage.
Après, moi, je rajouterais aussi que pour l'entourage, il faudrait que l'entourage aussi soit attentif à l'autisme des personnes autour d'elle et de voir éventuellement s'il n'y a pas des signaux aussi qui pourraient alerter sur une éventuelle ou plusieurs éventuelles agressions, que ce soit au sein d'un couple ou dans un lieu, que ce soit à l'école. Voilà, je pense qu'on devrait tous être attentifs à tout le monde.
D'autant plus aux personnes autistes qui ne vont pas montrer, encore moins montrer, puisque la plupart sont déjà dans leur bulle, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais en étant très attentif, effectivement, il peut y avoir des signes, hein, ça peut être des marques sur le corps ou des peurs, de nouvelles peurs qui arrivent comme
tocs,
ça.
Des tocs qui peuvent aussi être un indice de stress. Voilà, des tocs qui apparaissent comme ça. Voilà. Il peut y avoir plusieurs. Et puis, bien évidemment, j'en reviens là-dessus, hein, mais sur un effondrement autistique, alors ça arrive souvent, c'est pas forcément parce qu'il y a des agressions derrière, hein, ce sont des choses, mais qui seraient pas habituelles, qui ne seraient pas, ça peut être une cause aussi. Et surtout, dire qu'on a toujours une légitimité à demander de l'aide, puisqu'il y a des lois qui ne sont pas toujours respectées. Ça, c'est encore un autre problème, hein, peut-être un autre débat plus tard. Mais voilà, on a toujours le droit, je ne trouve pas le mot non plus, mais bon, ce n'est pas bien grave, c'est qu'il faut, quand il y a des violences, il ne faut pas déjà penser que c'est de sa faute. Il n'y a rien qui justifie la violence, que ce soit physique ou psychique, et qu'il faut demander de l'aide, en parler. Peut-être que des fois on a l'impression qu'on ne nous comprend pas, on se trompe justement sur ce que peut penser une personne de nous, et finalement ça sera peut-être cette personne-là qui va faire en sorte de nous aider. Voilà, il ne faut pas avoir honte à multiplier les demandes d'aide, à faire respecter les lois, et surtout à se dire que non, personne n'est jamais responsable d'une violence qu'il reçoit.
Exactement, ça sera notre conclusion pour cette première partie.
Oui,
on vous remercie, et puis on va passer à un entretien un peu plus informel.
Voilà, donc on est à l'écoute pour vos éventuelles questions. Merci beaucoup.
Merci.